Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin, l'invité politique.
Bretagne 5 matin, il est 8h30, alors j'ai perdu ma voix, mais ça ne va pas nous empêcher de retrouver notre invité du matin. Nous avons enregistré cette émission au festival Ouïr Lire, premier festival du nom à Pleuc-l'Hermitage, et nous sommes précisément avec le maire de Pleuc-l'Hermitage, mais qui est aussi conseiller départemental, Thibaut Guignard. Merci d'avoir accepté notre invitation, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça a été facile de monter ce festival en zone rurale, hein. On parle beaucoup des zones rurales, des territoires ruraux aujourd'hui. On a l'impression que les territoires ruraux ronronnent gentiment, et quand on vient ici à Pleuc, bah, ça ronronne pas finalement.
Effectivement, à Pleuc-l'Hermitage, ça ne ronronne pas. Ça ne ronronne pas dans la culture, mais ça ne ronronne pas non plus dans le sport, avec beaucoup de compétitions de VTT. Ça ne ronronne pas avec la pomme de terre en fête, avec la foire d'été, avec la foire d'automne, avec de nombreuses animations qui sont organisées régulièrement. Et ça, cela tient d'abord à la volonté des associations, à la volonté des bénévoles, qui sont ensuite soutenus par la mairie, et notamment par les services techniques pour le montage d'une telle manifestation. On sait aujourd'hui que les bénévoles sont précieux. Il faut aussi qu'une partie de la mise en place d'un tel salon soit réalisée par les services techniques de la mairie. Et à 4200 habitants, on a déjà des services techniques étoffés qui permettent d'avoir les hommes et les femmes nécessaires pour venir appuyer le travail des bénévoles, qui doit être plutôt un travail de fond, d'animation, d'accueil, etc.
On vous a soumis le projet. Vous avez dit banco, on y va.
J'ai dit banco, on y va, parce que ça faisait plusieurs années que j'avais envie de créer à Pleuc-l'Hermitage un événement culturel, et notamment un événement autour de notre médiathèque. Nous avons une médiathèque qui fonctionne très bien, et il manquait un événement de ce type, et nous y réfléchissions depuis quelques années. Et puis il y a eu la rencontre de notre médiathécaire, Nadège Lalanne, une jeune médiathécaire très motivée, avec beaucoup d'idées. Et puis de deux hommes, Eric et Yves, qui tiennent la maison d'édition La Gidouille et qui se sont installés à Pleuc-l'Hermitage après un coup de foudre pour une maison à la lisière de la forêt. Et donc c'est cette synergie avec mon adjoint au maire, Joseph Girard, qui a permis de mettre tous les acteurs autour de la table et de créer ce salon, c'est vrai, original, c'est-à-dire au cœur du milieu rural, mais tourné vers le livre, avec quand même 62 auteurs qui sont représentés.
Oui, parce que quand on voit la salle, au moment où l'on se parle, là on est sur la scène, quand on voit la salle, c'est quand même impressionnant, on a l'impression d'un grand salon, oui.
C'est un grand salon parce que 62 auteurs, c'est beaucoup. Et puis on voit que l'organisation, la mise en place, l'accueil, la répartition dans la salle, tout ça procède d'un travail véritablement professionnel.
Alors Thibaut Guignard, est-ce que c'est facile en territoire rural d'organiser ce genre de manifestation? Parce que souvent on entend les territoires ruraux, en tout cas les maires des territoires ruraux, se plaindre en disant voilà, on a du mal, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile non plus d'avoir des fonds hein, pour le faire. Comment ça s'est passé ici?
Est-ce que c'est facile en territoire rural? Je ne sais pas. Est-ce que c'est facile en milieu urbain? Je ne sais pas non plus. Une fois de plus, je le disais à l'instant, ce qui compte, c'est d'avoir une dynamique bénévole à la base. Et c'est ça qui compte. Après, bien évidemment, il faut des moyens financiers et techniques. Mais même avec de l'argent et de la technique, si on n'a pas des bénévoles, si on n'a pas des passionnés, comme le club de lecture de Pleuc-l'Hermitage, on n'accueille pas à un mois d'intervalle et le prix littéraire départemental Louis Guillou et ce premier salon du livre. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est capitaliser sur cette dynamique bénévole et surtout rappeler que la culture a toute sa place en milieu rural. Et il ne faudrait surtout pas qu'il y ait des zones blanches de la culture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en quelque sorte, il y a des zones blanches de la culture. Quand on regarde les budgets culturels, globalement, un francilien va bénéficier d'un budget de ses collectivités territoriales, mairies, départements, régions, de 140 euros par habitant. En milieu rural, on est à 15 euros par habitant. Alors, il faut que l'on dégage des moyens, et puis il faut aussi qu'on en fasse une priorité politique. C'est-à-dire qu'il faut que les élus prennent leurs responsabilités et affichent la culture comme étant une priorité politique pour les territoires ruraux, et non pas seulement le dernier des sujets qu'on traite une fois qu'on a refait les routes, la salle des fêtes, etc.
Mais néanmoins, Thibaut Guignard, c'est difficile, parce qu'il y a des contraintes aujourd'hui budgétaires, tout le monde les connaît, de tendre l'élastique entre la culture d'un côté, tout ce qui concerne le social, nos anciens. Est-ce que c'est facile d'arriver à avoir cet équilibre? Là, je m'adresse plus au conseiller départemental.
Il y a des situations très diverses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les conseils départementaux sont dans une difficulté financière véritable, importante et inquiétante. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de la demande sociale, que ce soit de l'accompagnement avec nos travailleurs sociaux, que ce soit des bénéficiaires du RSA, que ce soit les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire ces jeunes migrants dont nous avons la responsabilité. Et effectivement, il n'y a pas en face de budget spécifique de la part de l'État. Nous n'avons pas de nouvelles recettes fiscales, au contraire. Et donc, il y a effectivement des budgets dans les conseils départementaux qui se tendent de plus en plus. Pour les collectivités qu'on dit infradépartementales, c'est-à-dire agglomération et mairie, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a subi pendant des années des baisses de dotation. Lorsque le président Macron a été élu, il a annoncé qu'il n'y aurait plus de baisse de dotation, de cette dotation globale de fonctionnement dont tout le monde parle. Et il a d'ailleurs, mardi dernier, lors de sa réception des maires à l'Élysée, ouvert la porte à une refonte du mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement. Donc, ce maintien des dotations nous donne quand même de la visibilité. C'est un maintien, donc on ne revient pas au niveau de départ avant les baisses des gouvernements Hollande. Mais au moins, ça nous donne la visibilité qu'il n'y ait pas de nouvelles baisses. Et puis, à Pleuc-l'Hermitage, on a une particularité, il faut le dire, c'est que nous sommes communes nouvelles et que les communes nouvelles ont été épargnées par la baisse des dotations. Donc on a fait le même travail d'effort sur le fonctionnement, d'économie, comme si nous allions avoir les baisses de dotation d'État. Nous ne les avons pas subies, ou seulement un an, puisque nous avons créé la commune nouvelle en 2016. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que nous bénéficions d'un budget qui nous permet de... On ne roule pas sur l'or, comme on dit, mais qui nous permet de faire ce que l'on souhaite faire, comme un événement aujourd'hui.
Thibault Guignard, on parlait de commune nouvelle. Pleuc-sur-Lier est devenu Pleuc-l'Hermitage, avec ses avantages. Est-ce que c'est pour les habitants du territoire aussi une meilleure coordination des services? Alors, on parlait des services tout à l'heure techniques, mais aussi pour la culture.
Mais globalement, se regrouper en commune nouvelle, ça n'a que des avantages. À partir du moment où les élus sont d'accord sur le projet de territoire, sur le projet politique au sens noble du terme. Ensuite, ça n'a que des avantages, c'est-à-dire que l'on mutualise. Nous avons décidé de mutualiser entre une commune de 3500 habitants et une commune de 700 habitants. Il est certain qu'à l'Hermitage-Lorge, avant, il n'y avait pas une médiathèque, un service très technique très développé, beaucoup de matériel. Il n'y avait pas de policier municipal, il n'y avait pas de régisseur des salles, etc. etc. Nous avons mutualisé, mais l'Hermitage-Lorge nous a apporté beaucoup, aussi notamment dans la dynamique associative dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur la culture, nous allons créer une antenne de notre médiathèque dans l'ancienne gare de l'Hermitage, qui était jusqu'à présent une bibliothèque associative. On va garder cette dynamique associative parce qu'on ne veut surtout pas se passer de la richesse que représentent les bénévoles, mais on va en faire une annexe de la médiathèque, de façon à ce qu'on ait un fonds de livres actualisé, des animations et la présence de notre médiathécaire à certains moments de la semaine.
Alors Thibault Guignard, on parle culture, on parle aussi demande. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre un habitant de l'Île-de-France et un habitant des Côtes-d'Armor, par exemple, au niveau du budget de la culture. Est-ce que, en ayant mutualisé tous ces moyens, ça permet de faire aussi baisser les coûts et d'offrir plus? Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable demande culturelle. On demande des livres. La Bretagne est un territoire de livres, je ne vous apprends rien, et vous le prouvez aujourd'hui. Il y a une demande par rapport aux livres, par rapport au divertissement culturel. Est-ce qu'aujourd'hui, en gros, en un mot, les communes ou les nouvelles communes ne sont pas obligées d'être aussi un prestataire de services? Et est-ce que c'est facile à gérer ce genre de choses?
Alors moi, je ne voudrais surtout pas que la commune devienne un prestataire de services pour ce qui concerne la culture. Nous le sommes déjà pour l'eau, l'assainissement, la cantine, la garderie, etc. Mais sur la partie culture, vie associative, sport, on a ce vivier de bénévoles. Et ça, c'est une richesse du milieu rural. On parle souvent de ce qu'a la ville et de ce que n'a pas le milieu rural. Mais la richesse des bénévoles, elle est avant tout en milieu rural. Et donc, il faut réussir à inventer des montages où la collectivité vienne alléger le travail des bénévoles pour les garder dans le temps et pour les fidéliser et pour reconnaître la qualité de ce travail, viennent apporter un fonctionnement professionnel, sécurisé, viennent aussi apporter des financements, mais tout en s'appuyant sur cette richesse des bénévoles. Il ne faudrait surtout pas que, parce qu'on est une commune qui s'est agrandie, parce qu'on a un peu plus de moyens, eh bien on dise désormais ça va être un service public uniquement. Non, c'est un service public qui s'appuie sur les bénévoles, sur les clubs de lecture, etc. C'est ça qui donne de l'âme, en fait.
Les gens s'approprient l'outil ou les outils, finalement.
Ils s'approprient les outils, ils en font la promotion et ils donnent véritablement vie à quelque chose qui sinon pourrait être très impersonnel. On pourrait très bien imaginer des distributeurs de livres comme il existe des distributeurs de baguettes désormais. Il y avait les distributeurs de canettes, mais maintenant il y a des distributeurs de banettes.
On pourrait avoir
des distributeurs de livres et là ce serait très triste parce que le livre ça se touche, ça se partage, on demande conseil, on demande à la personne d'à côté est-ce que vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, il passe de main en main. C'est un objet qui a une âme et qui a une histoire.
C'est un objet qui vit constamment et longtemps, souvent même. Moi, je suis un amateur de livres papier, mais bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, on n'est pas là pour ça ce matin. Thibaut Guignard, bientôt, on va avoir des élections européennes. On va parler un peu de politique, mais culturelle à l'échelle de l'Europe. On sait que l'Europe a beaucoup investi dans plein de domaines, mais aussi dans le domaine culturel. Est-ce que c'est important, vous parliez, vous faisiez allusion tout à l'heure aux migrants, est-ce que c'est important aussi d'apporter la culture pour que les gens soient éclairés sur beaucoup de choses et peut-être faire tomber des tabous, faire tomber des a priori, etc.
Moi, je crois que s'il y a bien un domaine dans lequel il y a une identité culturelle, c'est la culture. C'est-à-dire que d'abord nous avons ces racines judéo-chrétiennes, ensuite nous avons un alphabet en commun. Et donc il y a dans ces cultures, parce qu'elles sont quand même diverses, hein, entre le sud du Portugal et le nord du Danemark, sans oublier d'ailleurs les territoires ultramarins, il y a des cultures qui sont très diverses, mais on retrouve un socle commun, une identité commune. Et nous avons l'occasion d'organiser des rencontres culturelles européennes, ici à Pleuc-l'Hermitage, avec des rencontres de groupes, notamment de musique folklorique ou de danse traditionnelle, avec des territoires polonais, avec des territoires roumains, avec bien évidemment des cercles celtiques bretons. Et on se rend compte que la culture est véritablement un vecteur de citoyenneté européenne. Quand on danse une danse bretonne, que l'on soit polonais, roumain ou breton, on prend le même plaisir et on vit le même plaisir.
Alors, on parlait de culture, mais on pourrait tout aussi bien parler de sport, parce que je sais que d'abord, vous aimez beaucoup le sport, on va parler de VTT, on ne peut pas s'empêcher de parler de VTT ici, dans une terre de VTT s'il en est.
Ne pas parler de VTT à Pleuc-l'Hermitage, ce serait comme ne pas parler de voile à Saint-Quay-Portrieux. Pleuc-l'Hermitage a cette chance d'avoir un site exceptionnel en termes de pratique du VTT, c'est le site de la Côte des Halles. Pour la petite histoire, il avait été créé par mon prédécesseur au début des années 80, pour l'équitation. C'était un site pour l'équitation de nature. Et puis, la pratique s'est arrêtée et le club de VTT s'est créé dans les années 2000 et s'est approprié au sens positif du terme le site de la Côte des Halles. Et on a fait une référence en France puisque c'est le seul site en France hors de montagne où on peut organiser un championnat de France de VTT.
Voilà, on le dit pour nos auditeurs qui sont loin, qui nous écoutent. Hein, voilà, un rendez-vous possible pour venir. On peut s'entraîner sur ce site
Ah, bien évidemment, on peut s'entraîner. On peut s'entraîner sur le circuit de Julie Bresset, championne olympique aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, qui a tracé son circuit, qui l'a balisé avec des références temps. Donc on peut effectivement s'entraîner. Il y a aussi un bike park. Et puis, moi, je donne rendez-vous à celles et ceux qui voudraient découvrir ce site. Du 11 au 18 août prochain, on organise ce qui sera sans doute le plus grand rassemblement de VTT jamais organisé en Bretagne, puisque pendant 5 jours, on aura le Trophée de France de jeunes VTTistes, c'est-à-dire le plus grand rassemblement de jeunes à VTT en France et en Europe, suivi de la finale de la Coupe de France Master. Donc, en fait, on va réunir l'ensemble de la grande famille VTT pendant 8 jours pleins sur le site de la Côte des Halles et à Pleuc-l'Hermitage.
Comme quoi on peut marier le sport, le livre et même le cheval, je crois, parce que je vous sais amateur.
Pour ma part, c'est effectivement l'équitation.
D'équitation, voilà. On en reparlera évidemment de ce rendez-vous d'août 2019, hein, donc on précise bien pour nos auditeurs. Je parlais de l'Europe tout à l'heure, il va y avoir évidemment les élections européennes qui vont arriver. Est-ce que vous êtes inquiet, Thibaut Guignard, pour ces élections? Parce que les Français ne sont pas passionnés finalement par les élections européennes. Les Bretons peut-être un peu plus.
Je suis pas inquiet, je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour trois raisons. D'abord, effectivement, les Français, généralement, ne s'intéressent pas aux élections européennes parce qu'on ne sait pas leur parler d'Europe. La deuxième raison, c'est que nous avons aujourd'hui une fracture qui se crée et qui se voit entre des territoires ruraux qui se sentent, à juste titre, délaissés des politiques publiques nationales et européennes qui ont tendance à se tourner vers des votes populistes et donc anti-européens, je pense à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et puis la troisième raison, c'est qu'on voit bien qu'il y a une fracture politique qui est en train de se faire entre les partis pro-européens et ceux que Alain Juppé appelle les casseurs d'Europe. Et je pense que dans la refondation politique en cours, la véritable ligne de fracture, c'est celle-là. On n'est plus sur une ligne de fracture gauche-droite, avec la gauche qui fait plus de social et la droite qui fait plus d'économie. Ça, c'est caricatural et c'est dépassé. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie fracture qui transcende les différents partis et les différentes sensibilités, d'ailleurs, et qui se fait par rapport au positionnement pro-européen de ceux et celles qui veulent plus d'Europe et des anti-européens qui veulent démonter l'Europe, alors que c'est l'héritage le plus précieux que nous avons depuis 1945 et qui s'est bâti sur la victoire du 11 novembre 18, qui fut aussi une défaite d'ailleurs, puisqu'elle annonçait la déclaration de guerre du 3 septembre 1939. Et donc, il faut se rappeler, on vient de commémorer l'armistice de 1918 partout en France et de chanter l'hymne à la joie européen. Il faudrait se souvenir de tous ces sacrifices de 14-18, mais aussi de 39-45, pour repenser le véritable poids et la véritable chance que représente d'être aujourd'hui dans une Union européenne avec une libre circulation des biens et des personnes, avec des régimes démocratiques et une paix partagée en héritage. Et ça, il faut le rappeler régulièrement parce que rien n'est jamais acquis. Mais ces élections européennes sont des élections à enjeu, c'est-à-dire qu'il faudra choisir si on va vers plus d'Europe avec un budget de la zone euro, avec une éventuelle armée européenne ou en tout cas une force européenne.
Le président de la République y a fait allusion, d'ailleurs, ça n'a pas plu à Donald Trump.
Si ça n'a pas plus à Donald Trump, c'est peut-être que c'était une bonne idée.
Voilà, il a tweeté, en tout cas.
Ou alors, est-ce qu'on va vers moins d'Europe, ceux qui veulent le repli sur soi et qui pourraient nous emmener dans une ligne proche de celle qui existe aujourd'hui en Italie ou en Hongrie?
On sent une Europe un petit peu disloquée actuellement. L'Italie, la Hongrie, la Pologne, c'est pas toujours simple non plus. Est-ce que il va falloir faire montre d'une grande pédagogie auprès des électeurs européens, des électeurs français en ce qui nous concerne, parce qu'on a le sentiment que l'Europe est loin des électeurs. En tout cas, ils ont ce sentiment-là.
C'est un sentiment, ce n'est pas une réalité. Mais si le sentiment est vécu comme tel, c'est qu'il y a eu des manques en termes de communication, de promotion des politiques européennes, des manques dont un certain nombre de responsables ou d'institutions sont responsables et sans doute que les élus y sont aussi pour quelque chose. C'est-à-dire que concrètement à ce qu'on pense, l'Europe est partout aujourd'hui. D'abord, je le disais, régime de paix, ça nous permet de vaquer à nos occupations comme cet après-midi au Salon du Livre. Ensuite, l'Europe est présente dans les territoires avec les fonds européens. Et puis ensuite, l'Europe est aussi une force de protection avec une harmonisation progressive et sans doute pas suffisamment rapide, mais une harmonisation en cours des pratiques sociales, du droit du travail, etc. Alors sans doute qu'il faut aller plus vite, mais moi quand j'entends les critiques sur l'Europe, je me dis que la seule réponse qu'on peut y apporter, c'est justement de mettre plus d'Europe. Et je pense qu'il ne faut pas laisser la critique de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui aux eurosceptiques. Il faut que les europhiles, dont je fais partie, osent critiquer l'Europe et dire là, il y a des choses à améliorer.
Des fois, ça ne fonctionne pas toujours très
bien. Exactement.
Il
y a des choses à améliorer. Améliorons-les ensemble en s'appuyant sur un couple qui fonctionne encore bien, même si c'est peut-être plus compliqué que par le passé, qu'est le couple franco-allemand.
Couple franco-allemand qui a démarré aux prémices de l'Europe avec Charles de Gaulle et Adenauer.
Mais c'est extraordinaire de voir De Gaulle et Adenauer, mais aussi l'ensemble de leurs successeurs qui ont toujours su montrer leur proximité jusqu'à Emmanuel Macron et la chancelière Merkel il y a quelques jours à Paris. Donc on voit bien que ce couple franco-allemand est la base de l'Europe. Nous avons des similitudes, nous avons des désaccords, mais dans tous les couples il y a des désaccords. L'idée c'est de voir comment est-ce qu'on rapproche nos positions pour vivre ensemble du mieux possible au sein de l'Union européenne.
Alors, il nous reste quelques secondes pour conclure. On parlait des maires tout à l'heure. Il y a des maires qui ne veulent plus retourner à leur tâche parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, trop difficile. Je vais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre, Thibaut Guignard. Vous allez vous représenter ?
En tout cas, je ne fais pas partie des maires qui disent « j'en ai assez, je ne vais pas me représenter, je jette l'éponge ». Ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce mandat est passionnant, c'est sans doute le plus beau mandat au plus proche de la population. C'est vrai que, comme le dit Gérard Larcher, le président du Sénat, on est à portée de claque. Mais on est aussi à portée de bisous des enfants quand on va dans les écoles, à portée de remerciements lorsque l'on a fait des réalisations sur l'espace public, à portée d'émotions lorsque l'on marie des jeunes gens, à portée d'émotions quand on fait des noces d'or avec des gens qui se sont mariés 50 ans plus tôt. Donc ce mandat est d'une richesse extraordinaire. Ceci dit, quand je dis que je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils vont jeter l'éponge ou qu'ils en ont marre, une fois de plus, Pleuc-l'Hermitage, c'est modestement 4200 habitants, 70 agents qui y travaillent, donc on a les moyens de fonctionner. Mmh. On a les moyens de fonctionner, je pense que ce n'est pas comparable pour un maire d'une commune de moins de 1000 habitants qui doit faire beaucoup de choses par lui-même, qui a des budgets beaucoup plus restreints et pour qui c'est sans doute plus difficile. C'est pour ça que je pense que le concept de commune nouvelle, sans être sans doute la solution partout, dans certains endroits du territoire, est une bonne formule, parce que cette formule de commune nouvelle permet de maintenir les identités. Chaque commune garde son nom, son église, sa place, sa salle des fêtes, son école, si elle en a une, mais de globaliser et de mutualiser. En tout cas, à Pleuc-l'Hermitage, c'est une réussite, et je vois qu'autour de nous, dans d'autres territoires, comme à Plougna-Langa très récemment, c'est aussi une initiative qui démarre bien.
Donc vous ne jetez pas l'éponge, Thibaut Guignard, on aura retenu ça aussi. Merci d'avoir été avec nous. Alors, je dis ce matin, mais je rappelle aux auditeurs que
nous sommes l'après-midi.
Voilà, que nous sommes l'après-midi, que l'entretien a bien entendu été enregistré dans les conditions du direct. Merci d'avoir été avec nous. Je vais vous laisser retourner à vos administrés qui ne vont pas vous mettre de claque, hein, je ne crois pas, j'ai pas eu le sentiment.
Alors... Merci à vous et merci à vos auditeurs.
Merci infiniment et belle journée.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.